Jean chapitre 1, versets 43 à 47. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit: Suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: Viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. Et Père, nous sommes tellement reconnaissants que quoi qu'il arrive, nous pouvons toujours ouvrir ta parole et t'entendre et te laisser nous parler. Et donc, Seigneur, nous prions pour que tu nous parles dans nos cœurs aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Donc le titre de ce message est Venez et voyez, deuxième partie. Venez et voyez, deuxième partie. La dernière fois que nous étions ensemble, nous avons vu deux des disciples de Jean suivre Jésus. Ils se demandaient à Jésus, ils se demandaient où Jésus demeurait. Et il a répondu en disant: Venez et voyez. Et ils sont venus et ils ne sont jamais partis. La raison en est que lorsque vous rencontrez Jésus, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous savez, nous avons abordé ce sujet en détail la semaine dernière, mais je pense que cela mérite d'être mentionné à nouveau. La preuve est dans le fruit. La preuve que Jésus-Christ est en vous, c'est votre vie transformée. Si votre vie n'est pas changée, alors vous n'avez pas eu de rencontre avec Jésus. Vous ne pouvez pas être le même et dire que vous avez eu une rencontre avec Jésus. Il ne vous laissera pas le même. Ses disciples, ils étaient tellement convaincus, ils étaient tellement transformés par ce que Jésus a fait pour eux lorsqu'ils ont eu une rencontre avec lui, qu'ils se sont souvenus de l'heure même. Ils ont dit que c'était la dixième heure que notre vie a été transformée. Et de même, vous savez, quand Jésus a changé votre vie, quand vous avez eu une rencontre avec le Sauveur ressuscité, je vous le dis, vous saurez le moment précis. Je crois que la raison pour laquelle beaucoup de gens ne le savent pas, c'est parce qu'ils n'ont eu qu'une rencontre avec l'Église et non avec Jésus. Et c'est malheureux qu'aujourd'hui, on puisse avoir une rencontre avec l'Église et ne pas avoir une rencontre avec Jésus. Ils ont eu une rencontre avec Jésus et cela a changé leur vie. Et ils ne l'ont jamais quitté. Ils ont continué à être avec lui. Nous reprenons maintenant l'histoire au verset 43. Regardez ce qui est dit au verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit: Suis-moi. Littéralement, c'est il trouva Philippe. C'est le même verbe qu'au verset 41, eurisko, qui nous donne eureka, j'ai trouvé. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est le cœur de Jésus. Jésus dit dans Luc 19, verset 10, qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et cela a été démontré par la façon dont il a trouvé Philippe. Trouver Philippe signifiait qu'il le cherchait. Remarquez que la première partie de ce verset dit que Jésus voulait aller en Galilée. Il voulait aller au nord, vers la Galilée, parce qu'il savait que Philippe serait là. Il voulait aller trouver Philippe. Cela signifie que Jésus cherche des individus. Il est allé en Galilée et dans Jean chapitre 4, quand nous y arriverons, il est dit qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. Jésus n'avait pas vraiment besoin de passer par la Samarie. Il aurait pu suivre le chemin habituel et contourner la Samarie, passer par la Pérée pour monter en Galilée. Mais il a dit qu'il devait passer par la Samarie. Pourquoi? Parce qu'il y avait une femme près du puits qu'il allait toucher. Il a donc dit qu'il voulait aller en Galilée parce qu'il savait que Philippe serait là. Le Seigneur cherche à toucher les individus. Bien sûr, il cherche à toucher les nations et les peuples et tout ce genre de choses, mais il touche les nations et les peuples en touchant d'abord une seule personne. Et il savait que Philippe serait là. Savez-vous que Jésus voulait traverser la Galilée parce qu'il savait que Philippe serait là? Je crois que Jésus traverse la Vendée en ce moment même et je crois qu'il est ici aujourd'hui parce qu'il savait que vous seriez là, parce qu'il voulait vous toucher. Alors qu'il vous cherche, vous trouvera-t-il comme il a trouvé Philippe? Répondrez-vous à son appel quand il vous dira de le suivre? Répondrez-vous à cet appel particulier? Parce qu'il est ici en ce moment même à vous chercher, parce qu'il vous aime. Parmi les 8 milliards de personnes sur Terre, il vous cherche. Et pour beaucoup d'entre vous, il vous a trouvé il y a X années. Il m'a trouvé il y a 40 ans et il est ici à votre recherche. Une autre chose que je veux porter à votre attention, remarquez comment il est dit que le Seigneur a trouvé Philippe. Ce qui signifie que Philippe était perdu et avait besoin d'être retrouvé. Je dis cela parce que nous utilisons souvent la terminologie suivante. J'ai trouvé le Seigneur en 1984. Eh bien non, nous ne trouvons pas Dieu. C'est lui qui nous trouve. Jean 6, verset 44 dit que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Le Seigneur a donc trouvé Philippe et je crois qu'il vous cherche. Et peut-être avez-vous senti que le Seigneur tirait sur votre cœur, vous attirant à lui. Qu'aujourd'hui soit le jour où vous dites « Seigneur, le jeu de cache-cache, ce qui signifie « je cache, tu cherches » est terminé. Je veux te suivre comme Philippe l'a fait. » Regardez ce qui est dit au verset 44. « Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. » Or, Bethsaïda, c'est une ville située sur les rives nord-est de la mer de Galilée. Il est dit que c'était la ville d'André et de Pierre. Dans Marc chapitre 1, verset 21 et verset 29, on lit que Pierre et André étaient de Capernaüm. Mais ce verset dit qu'ils étaient de Bethsaïda. Alors, il y a une contradiction ici, les amis. Oui, je vous ai dit que la Bible est pleine de contradictions. Et en voici une ici pour vous. Eh bien non. Vous savez quelle est la solution? Ils ont déménagé. C'est simple. Ils ont grandi à Bethsaïda, mais ont ensuite déménagé à Capernaüm. Pourquoi? Parce que Capernaüm était l'endroit où Jésus a établi son quartier général. Donc Pierre et André ont déménagé pour être plus près de Jésus. Souvent, les gens déménagent uniquement pour les raisons économiques, pour un emploi, et la dernière chose à laquelle ils pensent est de savoir s'il existe une bonne église qui croit et enseigne la Bible dans cette région. Trop de gens pensent que de bonnes églises existent partout et que peu importe où ils vont, ils pourront en trouver une là-bas. Et ce n'est pas toujours le cas. Pierre et André ont déménagé à Capernaüm pour se rapprocher de Jésus. Alors la prochaine fois que vous envisagez de prendre un emploi dans une certaine région, assurez-vous que ce déménagement vous permettra de vous rapprocher de Jésus. Et donc ici, ils se sont rapprochés de Jésus. Regardez ce qui est dit au verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Remarquez comment il est dit que Philippe a trouvé Nathanaël. C'est toujours le même verbe, « eurisko ». Or, le nom de Nathanaël signifie « Dieu a donné ». Ce que j'aime beaucoup, c'est que dans la communauté juive, ils donnent toujours à leurs enfants le nom d'une caractéristique ou d'un aspect de Dieu, quelque chose que Dieu va faire ou a fait dans leur vie. Et en conséquence, ils nomment leurs enfants d'après cela. Le nom de Nathanaël signifie « Dieu a donné ». Et donc, c'était peut-être quelque chose que Dieu leur a donné. Et ils se sont dit, vous savez, notre prochain enfant, nous allons l'appeler Nathanaël, juste pour que nous puissions nous rappeler et que cet enfant puisse se rappeler de ce que le Seigneur a fait dans nos vies et dans la sienne également. Aujourd'hui, les gens choisissent des noms. Eh bien, allons sur Internet, les 10 prénoms les plus choisis en 2023 sont ceux-ci, et ils n'ont aucune idée de ce que ce nom prénom signifie. Bah, c'est mignon, c'est unique. Et l'enfant sera en CM2 avant de pouvoir épeler son prénom. Ils le font sans se soucier de ce que cela signifie, de ce que cela représente, de ce que cela signifie dans une autre langue. Tout d'un coup, dans une autre langue, leur nom signifie Satan et Seigneur, mais ils ne le savent pas. Ils sont ici en France et ils ne le savent même pas. Mais ici, Nathanaël, son nom signifie Dieu a donné, et c'était son nom juif. Maintenant, il est connu dans les autres évangiles sous le nom de Barthélemy. Si vous lisez Barthélemy, ou si jamais vous lisez Édith, eh bien, dans l'autre évangile, nous ne lisons rien sur Nathanaël, eh bien, son nom est Barthélemy. Nathanaël est son nom juif et Barthélemy était son nom grec. Et cela signifie Bartholomée, ou fils de Ptolémée. Et donc son nom hébreu est Nathanaël. Il est étonnant que Jean soit le seul à l'appeler par ce nom. Les autres auteurs des évangiles l'appellent Barthélemy. Mais il y a trois choses sur lesquelles je veux attirer votre attention dans ce verset. Premièrement, la rencontre de Philippe avec Jésus était réelle parce que le cœur de Jésus qui cherche et sauve les perdus est devenu son cœur. Il est parti et a trouvé Nathanaël. C'est toujours un signe vrai que vous appartenez à Jésus. Son cœur deviendra votre cœur. Vous serez enthousiasmé par les choses qui l'excitent. Lorsque vous êtes enthousiasmé par Jésus, vous ne pouvez pas vous empêcher de parler de lui aux autres. C'est comme un mendiant qui dit à un autre mendiant où il a trouvé du pain. Son cœur d'amour deviendra votre cœur d'amour. Son cœur de pardon deviendra votre cœur de pardon. Et donc, premièrement, le cœur de Jésus est devenu le cœur de Philippe. La deuxième chose sur laquelle je veux attirer votre attention dans ce verset, c'est que Philippe connaissait les Écritures. Il a mentionné Moïse et la loi. Il a fait référence aux cinq premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Puis il a fait référence aux prophètes, en faisant référence aux grands prophètes et aux petits prophètes. Les grands prophètes étant Ésaïe, Ézéchiel, Daniel, les petits prophètes Osée, Sophonie et les autres. On les appelle grands et petits prophètes, non pas parce qu'un livre est plus important qu'un autre, mais à cause de la longueur de leurs livres, grands et petits prophètes. Il a cité ces choses, ce qui signifie qu'il avait lu et médité sur les Écritures. Et une façon d'être vraiment un témoin efficace pour Jésus-Christ est de connaître les Écritures. Familiarisez-vous avec la Bible en la lisant, en l'étudiant, en méditant sur son enseignement dans les études bibliques et observez et voyez comment le Seigneur vous utilise d'une manière puissante. Ne vous laissez pas tromper en pensant que vous devez devenir un érudit biblique avant que Dieu puisse vous utiliser. Non, vous n'avez pas non plus besoin d'avoir un diplôme en études bibliques avant de pouvoir partager avec les gens les choses de Dieu. Non. Cela me rappelle l'histoire de l'aveugle qu'on lit dans Jean chapitre 9. L'aveugle, après avoir été interrogé par les chefs religieux, il a dit dans Jean 9, verset 25, Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle. Et maintenant je vois. Et si c'est tout ce que vous savez, que vous étiez aveugle, mais maintenant vous voyez, alors dites-le. Si c'est tout ce que vous savez maintenant, je parle de maintenant. Ce n'est pas parce que vous êtes avec le Seigneur depuis 10 ans que vous devez continuer à dire j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Non, 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 non. Vous devriez en savoir un peu plus dans 10 ans. Mais maintenant, si c'est tout ce que vous savez, que vous étiez aveugle, mais maintenant vous voyez, alors vous le partagez. Vous le partagez. Vous partagez ces choses. Vous dites, tu sais quoi, j'étais aveugle dans mon péché et Jésus est venu et il a touché ma vie. Il m'a pardonné de tous mes péchés. Et maintenant, je peux voir clairement. Je vois clairement au-delà de ma propre situation. Je peux voir au-delà de ma blessure et de ma douleur. J'ai été pardonné de tous mes péchés. C'est pourquoi j'ai tant ce pardon. Je vois les choses clairement maintenant. Et c'est ce que vous partagez avec les gens. La troisième chose sur laquelle je veux attirer votre attention est la suivante. Remarquez comment la connaissance de Philippe des Écritures l'a amené à attendre la venue du Messie. Vous l'avez remarqué? Lorsque Jésus est venu, il était facile de le recevoir parce qu'il le cherchait déjà. Je crois que la même chose est vraie pour nous lorsque nous lisons et méditons sur les Écritures. Nous allons attendre le retour de Jésus, la seconde venue. En lisant le livre de l'Apocalypse, en lisant le livre d'Ézéchiel et de Daniel, et en lisant les nouvelles, je m'attends au retour du Seigneur. Car dans Matthieu 24, verset 33, Jésus a dit, « Quand vous verrez toutes ces choses, mais quelles choses? Des guerres, des bruits de guerre, des famines, des tremblements de terre, des pestes, des maladies, toutes sortes de choses étranges. Lorsque vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Et Jésus a également dit, lorsque vous verrez ces choses se produire, ce sont les douleurs de l'enfantement. Pour celles d'entre vous, vous qui ont eu des bébés, vous savez que lorsque les douleurs de l'accouchement arrivent, ce bébé est sur le point d'arriver. Nous voyons donc les douleurs de l'accouchement et cela signifie que Jésus va bientôt revenir car nous voyons les douleurs de l'accouchement. Mais si vous ne connaissez pas les Écritures, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, si vous ne connaissez pas Matthieu 24 ou le livre d'Ézéchiel ou Daniel ou l'Apocalypse, si vous ne savez pas de quoi parlent ces livres, vous verrez ce qui se passe et vous direz simplement, wow, les choses vont vraiment mal. Il y a toujours une guerre en cours. Et vous direz, wow, les choses vont vraiment mal. Mais pour une personne qui lit les Écritures, elle dit, oh oui, ce ne sont que les douleurs de l'accouchement. Et elle lève les yeux et attend le retour du Seigneur. Regardons ce qu'il dit au verset 46. La première partie dit, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Or, Nazareth est une ville isolée. C'était comme vivre à Perpétlézois. C'est une ville sans importance. Elle était dans la campagne. Vous savez, tout là-bas, oublié, abandonné. Et ce qui surprend Nathanaël dans le fait que Philippe ait dit que Jésus était le Messie, c'est le fait qu'il connaissait les Écritures et qu'il disait que le Messie allait naître à Bethléem, citant Michée 5, verset 1, et non à Nazareth. Peut-être y avait une certaine rivalité derrière sa remarque. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Nathanaël était de Cana, à environ 16 km au nord de Nazareth. Il se pourrait qu'il y ait une sorte de rivalité ou quelque chose de ce genre. Peut-être nous ne le savons pas, mais peut-être qu'il se demandait si quelque chose de bon pouvait sortir de Nazareth. Et je me demande simplement si nous devons être prudents et nous assurer que notre petite rivalité que nous avons avec un groupe de personnes ou un collègue ou quelqu'un d'autre, nous devons nous assurer que cette rivalité ne nous fasse pas passer à côté du Seigneur et ce que le Seigneur fait dans la vie des gens. Il est d'où votre pasteur? Peut-il venir d'Angleterre quelque chose de bon? Nous devons être prudents parce que c'est le genre de choses qui lui a presque fait passer à côté de Jésus. Et si ce n'était pas à cause de sa connaissance des Écritures, je crois qu'il l'aurait manqué. Cette rivalité ou quoi que ce soit, ce parti pris qu'il avait envers ceux de Nazareth, je crois qu'il serait passé à côté du Messie. Mais sa connaissance des Écritures l'a sauvé. Elle l'a sauvé. Mais regardez la réponse de Philippe. Philippe lui répondit, viens et vois. Viens et vois. Or, Nathanaël a posé une question légitime, mais remarquez comment Philippe n'a pas été dérouté par sa question. C'est quelque chose dont il faut se souvenir lorsque vous parlez aux gens du Seigneur. Ne vous laissez pas perturber par leurs questions. Certaines questions méritent qu'on y réponde, mais d'autres sont conçues pour vous faire dévier du sujet, pour vous faire parler des atomes, des dinosaures, de l'ère glaciaire, de Marie et de toute autre chose qui n'ont aucun rapport avec la vie éternelle. Mais remarquez qu'il ne s'est pas écarté du sujet. Il ne s'est pas écarté du sujet du tout. Il a tout de suite repris le sujet, il a juste dit, tu sais quoi? Tu dois juste venir voir. Il a dit, je ne peux pas défendre ce Jésus de Nazareth maintenant, je sais juste que j'ai eu une rencontre avec lui, et sur la base de cette rencontre, j'ai senti et vu combien l'Éternel est bon. C'est une citation de Psaume 34, verset 9. Et il ne pouvait pas défendre le Seigneur intellectuellement, il ne pouvait pas le défendre théologiquement à cette époque. Il savait juste qu'il était réel. Et il a juste dit, tu dois venir voir. Et parfois, c'est ce qu'il faut dire aux gens. Il faut que tu racontes aux gens qui essayent de te parler à ton travail à propos de quelque chose qu'ils ont trouvé sur Internet, une émission bizarre qu'ils ont vue sur BFM avec un groupe d'experts qui disent que Jésus n'était pas réel, qu'il n'était pas né. Et que c'était des experts, Chaque fois que je vois quelque chose sur la Bible à la télé, je suis sceptique. C'est des experts, entre guillemets. Eh bien, tu sais, Jésus n'était pas réel. Il y avait juste quelqu'un qui s'appelait Jésus, et tu sais, un autre expert. Ouais, je suis d'accord avec lui, il y a un docteur, un tel de l'université ou quoi que ce soit. Ouais, ce Jésus n'est pas réel, tu sais, tous ceux qui te disent ça, tu dis, tu sais quoi? Je sais juste que j'ai eu une rencontre avec lui et qu'il est réel. Il a changé ma vie, j'étais aveugle, mais maintenant je peux voir. Je peux voir l'idiotie à laquelle tu crois, je peux le voir, je peux voir que ce que tu dis n'est pas vrai. C'est une chose que je peux voir. J'étais aveugle avant, mais maintenant je peux voir, et Jésus est réel, et Jésus revient. Personne ne peut vous enlever cela. Personne ne peut vous enlever ce que Jésus a fait pour vous et ce qu'il a fait dans votre vie. Personne ne peut vous enlever cela. Regardons le verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Remarquez que Jésus vit Nathanaël venir à lui. J'aime ça. C'est bien. Félicitations à Nathanaël parce que même s'il avait des questions et des réserves, il a accepté l'invitation de Philippe de venir voir par lui-même. J'aime la façon dont Jésus a vu Nathanaël venir. Et le Seigneur vous voit venir aussi. Il vous voit venir à petits pas. Il sait que vous avez des questions. Il sait que vous avez des réserves. Mais merci à Dieu que vous ayez accepté l'invitation de quelqu'un de venir voir. Vous avez accepté et vous êtes venu avec toutes vos questions, toutes vos réserves. Et vous avez accepté de venir et je vous en suis reconnaissant. Alors, que s'est-il passé ensuite? Vous devez revenir la semaine prochaine et nous verrons ce qui s'est passé. Laissez-moi conclure avec ceci. Une fois de plus, nous avons vu que l'invitation a été donnée de venir voir. Nous avons vu qu'une fois que nous acceptons l'invitation de Jésus à venir voir, nous aurons un cœur pour trouver d'autres personnes et leur dire de venir voir. Si vous n'avez pas ce genre de cœur, vous devez alors examiner votre cœur et voir si Jésus est vraiment là et passer du temps avec lui dans la prière et la lecture de la Bible. Et avec le temps, son cœur deviendra votre cœur. Et lorsque vous invitez des personnes à venir voir, soyez prêts à répondre à toutes les questions qu'elles pourraient poser sur l'Église et le christianisme. Nous nous préparons en passant du temps dans la parole de Dieu, en la lisant, puis en l'étudiant, et en la méditant, en la mémorisant. Et lorsque nous le ferons, Dieu nous utilisera comme il l'a fait avec Philippe et Nathanaël. Et je crois que Jésus est ici aujourd'hui et il dit, suis-moi. Allez-vous accepter cette invitation? Ou allez-vous partir d'ici et retourner à votre simple existence de vie? Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, vous n'avez pas commencé à vivre tant que vous n'avez pas réalisé que vos péchés ont été pardonnés par Jésus-Christ. Tant que vous ne l'acceptez pas comme votre Seigneur et Sauveur dans votre cœur, vous n'avez pas commencé à vivre. Vous n'avez fait qu'exister sur cette terre. Mais la vie, c'est quand vous avez eu la vie éternelle injectée dans votre cœur. Jésus dit dans Jean 10, verset 10, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez plus abondamment. » Le mot grec est « zoé ». Il ne parle pas de la vie « bios ». Jésus n'est pas venu pour nous rendre notre vie humaine parfaite, malgré ce que certaines églises peuvent vous enseigner. La vie Zoé, c'est la vie éternelle. La vie Zoé, c'est la vie de Dieu. Il ne s'agit pas d'une quantité, d'une qualité de vie humaine ici sur Terre. Il s'agit de la vie éternelle. C'est une qualité de vie donnée par Dieu. La vie que Jésus avait avant la création. C'est une vie que le Seigneur veut vous donner par Jésus-Christ en vous repentant de vos péchés et en acceptant Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Vous pouvez le faire aujourd'hui parce qu'il est ici aujourd'hui. Et il a dit dans ce message, venez et voyez. Allez-vous venir? Allez-vous accepter cette invitation? Prions. Père Céleste, merci encore pour ta parole. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour le grand amour que tu nous as témoigné. Et Seigneur, je prie pour ceux qui sont ici, je prie pour qu'ils entendent ton appel à venir voir. Attire les gens à toi par ton Saint-Esprit, pardonne leurs péchés. Et Seigneur, je prie pour ceux d'entre nous qui te connaissent déjà. Si nous n'avons pas un cœur pour chercher et sauver les perdus, Seigneur, je prie, touche nos cœurs. Nous avons besoin d'un contact de ta part, Seigneur, pour allumer le feu dans nos cœurs afin de venir voir. Agis dans nos cœurs. Nous prions par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen.